VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Contestation en Algérie, 23e semaine de manifestations hebdomadaires contre le régime ce vendredi à Alger. Les manifestants défilent en grand nombre dans le centre-ville quadrillé par les forces de sécurité. Au lendemain de la désignation par le pouvoir d'un panel chargé d'organiser un dialogue jusqu'ici rejeté par la contestation. Il y en a marre des généraux, scandent des centaines de protestataires aujourd'hui en référence à la place primordiale occupée par l'armée dans le leadership du pays depuis l'indépendance en 1962. Jeudi, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a chargé 6 personnalités d'envergure nationale de mener le dialogue qu'il a proposé début juillet aux partis politiques et à la société civile pour définir les modalités d'une présidentielle libre et transparente dans les plus brefs délais. Mais les partisans du changement refusent qu'une présidentielle soit organisée par les anciens hauts responsables de la présidence Bouteflika qui sont toujours au pouvoir, notamment le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée et véritable homme fort du pays. Afrique du Nord, toujours soulagement en Tunisie, pays qui a évité une vacance du pouvoir après le décès du président Béji Kaïdé Sepsi hier et qui s'apprête à organiser des élections présidentielles anticipées en moins de 2 mois. Un défi dans un contexte politique difficile. Mais ce vendredi, l'heure est aux hommages aux leaders disparus, dont la dépouille a été transportée au palais présidentiel de Carthage. La Tunisie, désormais présidée par intérim par le chef du Parlement, Mohamed Nasser, qui a prêté serment quelques heures seulement après le décès de M. Essebsi, salue la mémoire de son premier président élu démocratiquement au suffrage universel en 2014. Des funérailles nationales sont prévues samedi en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment le président français Emmanuel Macron. Crise migratoire, plus de 100 migrants portés disparus après le naufrage de leur bateau jeudi au large de la Libye. C'est ce qu'annonce le HCR, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, et la marine libyenne qui parle aussi d'une centaine de rescapés. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le haut commissaire de l'ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, la pire tragédie en Méditerranée cette année vient de se produire. Pour sa part, un responsable de l'Organisation internationale pour les migrations précise que le naufrage est survenu au large de la ville libyenne de Homs, à 120 km à l'est de Tripoli. D'après Safa Serli, 145 migrants ont été secourus par les gardes-côtes libyens et ramenés vers Homs. Certains survivants ont raconté que leur bateau avait coulé et qu'il y avait encore à bord quelques 150 migrants, a ajouté Madame Serli. Mais selon le général Ayoub Kassem, porte-parole de la marine libyenne, il s'agit d'une embarcation en bois transportant environ 250 migrants clandestins, dont des femmes et des enfants. Avant le naufrage annoncé hier, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes en tentant de traverser la Méditerranée depuis le début de l'année. En dépit des risques d'une traversée périlleuse et des restrictions sur la rive nord de la Méditerranée, les migrants prennent encore la mer, préférant tenter leur chance plutôt que de rester en Libye.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Nigeria, au moins 2 morts et plusieurs blessés et des dégâts matériels. Tel est le bilan de l'attaque des militants de Boko Haram hier soir contre le camp de déplacés de Dalori, près de Maïdougouri, chef-lieu de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. Des dizaines de djihadistes à moto et en tricycle motorisé ont attaqué le camp vers 18h45, temps universel. Ils ont pillé et incendié des magasins et ont également emporté des vivres, a déclaré aujourd'hui Bello Danbata, responsable de la sécurité à l'agence de gestion des secours d'urgence dans l'État de Borno. Les assaillants avaient dans un premier temps attaqué et incendié une base militaire proche, a précisé une déplacée installée à Dalori. Cette localité et le camp aussi ont déjà été la cible plusieurs fois d'attaques de la part du groupe djihadiste. Au Mali, fin à Bamako, jeudi, des assises de 3 jours sur la malnutrition qui ont permis l'élaboration de stratégies qualifiées d'efficaces par les participants. De nombreux experts et personnalités, comme le vice-président ivoirien Daniel Kablan et l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete, étaient présents à cette rencontre dans la capitale malienne. Kassim Traoré, le correspondant de VOA Afrique sur place, revient sur les temps forts de la réunion.
Selon les chiffres de l'UNICEF, 55 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition dans le monde. 50% des 10 millions de décès d'enfants est dû à ce phénomène. Au Mali, 4 sur 5 enfants sont atteints d'anémie. C'est pourquoi les travaux de Bamako ont été axés sur la prévention. Docteur Si Aminata Traoré.
Pour prévenir la malnutrition, il faut travailler ensemble avec la communauté, donc dépister très tôt. À travers ce bracelet, donc le MIA qui leur est donné, leur permettre d'arriver dans un centre de santé où le personnel est formé à la prise en charge de cette malnutrition avec des outils simples de dépistage, avec des aliments simples de prise en charge comme les pâtes alimentaires. Donc toute cette chaîne émaillée qui permet de faire une prise en charge efficace.
Plusieurs cas pratiques de traitement ont été présentés par les professionnels lors des travaux en groupe. Docteur Koumaré.
C'est des cas comme ça, spécifiquement, en plus de la malnutrition aiguë sévère, le traitement médical est adapté. Et ça mérite une surveillance de 24 heures sur 24, d'où le schéma interne d'hospitalisation.
Ce partenariat, c'est un modèle qu'il faut essayer de multiplier, de fortifier et aussi de répandre au niveau national. Ça complète l'action de UNICEF et ça a un fort impact sur la réduction de la malnutrition au niveau du Mali.
L'échange d'expérience entre les professionnels est perçu comme une école pour certaines participantes.
Si réellement nous avons l'équipement nécessaire pour mettre en exergue cette formation que nous allons recevoir ici, je dis que le Mali, d'ici 10 ans, nous allons vaincre la malnutrition.
La perspective de voir qu'il y a toujours de la malnutrition qui est là et il y a toujours des enfants qui souffrent de malnutrition, ça me prend le cœur. Donc ça me donne la force de venir toujours pouvoir lutter contre ce fléau-là.
La Côte d'Ivoire, à travers son vice-président Daniel Kablan Duncan, a participé aux travaux.
On a échangé d'ailleurs tout à l'heure avec lui le développement des cantines scolaires, de manière à ce que les enfants mangent bien. Madame Jada Verbung donnait des expériences des autres pays, indiquées au président et au premier ministre, qui a le centre qui s'appelle le centre d'excellence régionale pour la lutte contre la faim et la malnutrition, qui a été installé à Abidjan le 25 mars et qui va couvrir, pour le moment, couvre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre, mais qui pourra donc concerner donc l'ensemble d'Afrique. Et il permettait donc d'échanger les expériences dans le domaine de la malnutrition et dans le domaine, disons, de la petite enfance.
La lutte contre la malnutrition coûte chaque année 265 milliards de francs CFA à l'État malien. Docteur Boubou Cissé, Premier ministre.
Au Mali, en 2019, un enfant sur 5 est atteint de retard de croissance ou malnutrition chronique et plus d'une femme sur 2 souffre aussi d'anémie. Le résultat de l'étude sur le coût de la faim indique que la malnutrition coûte environ 265 milliards de francs CFA par an, soit 4,06% du produit intérieur brut de l'État malien.
Les 3 jours de travaux ont permis l'élaboration de stratégies efficaces contre ce phénomène qui constitue un problème de santé publique. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale, au Cameroun, 45 personnes, dont 43 détenus, ont été blessées mardi au cours de la mutinerie à la prison principale de Boya, chef-lieu du Sud-Ouest, une des deux régions anglophones du pays où s'affrontent depuis près de 3 ans l'armée camerounaise et des séparatistes. Plus de détails avec John Lyndon.
Le bilan général de la mutinerie fait état de 2 éléments de force de sécurité blessés et de 43 détenus blessés, selon un communiqué publié par René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il insiste qu'aucun décès n'a été enregistré. L'enquête menée à ce point indique que 20 insurgés identifiés comme mineurs ont été placés à la disposition des services de police judiciaire de la région du Sud-Ouest. Pour le gouvernement, les mineurs de cette révolte sont essentiellement des personnes arrêtées puis placées en détention provisoire dans le cadre de la crise anglophone. Mardi, ils avaient barricadé l'entrée principale de la prison, saccagé certaines installations et incendié la bibliothèque, un bureau et un magasin de vivres. Les auteurs de cette fronde revendiquaient l'amélioration de leurs conditions de détention et leur jugement, selon des sources concordantes. Dans la nuit de lundi à mardi, une autre mutinerie avait déjà secoué la prison centrale de Yaoundé avec des coups de feu, le saccage et l'incendie de certains services. Plusieurs détenus, dont au moins deux personnalités, avaient été blessés.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.